Bonjour à tous.
Bonjour. Donc notre intervention s'intitule « Faire observer la langue pour lire et écrire au CP » et nous tenons vraiment à commencer cette intervention en signalant que nous ne sommes que les porte-parole d'un groupe de 6 enseignants-chercheurs et que ce que nous vous présentons est le travail collectif de ces 6 personnes.
Cette communication s'organise en 4 temps. Tout d'abord, un rappel rapide de nos questions de fond et de certaines de nos hypothèses concernant l'étude de la langue à l'école. Puis, la présentation de 2 vagues de résultats. Les premiers résultent de l'analyse de données impliquant le budget temps consacré à l'étude de la langue et nous y ajoutons ceux d'une investigation plus serrée, une sorte de carottage concernant les tâches morphologiques et notamment la question des accords. Les seconds résultats proviennent du traitement statistique des effets du temps passé à faire de l'étude de la langue sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Nous y ajoutons également un nouveau carottage questionnant cette fois-ci la réalité des tâches pratiquées dans les classes appartenant aux quartiles supérieurs et inférieurs. Enfin, nous terminerons par la présentation de ce qui nous reste à faire, les perspectives de recherche qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, voyons les questions de fond et les hypothèses de notre groupe, le groupe 7. 3 questions de fond préoccupent l'ensemble des membres de notre équipe. La première, enseigne-t-on la grammaire au CP et si oui, comment? Quels liens s'établissent entre études de la langue et enseignement de la lecture-écriture dans les pratiques observées? Et enfin, quelle est la place faite à l'introduction des premières notions grammaticales? Quelle forme prend leur étude et quels sont les effets de cette introduction? Ce questionnement est le terreau d'une série d'hypothèses que nous avons posées au tout début de l'enquête. Et au premier plan, des hypothèses qui sont liées au budget temps. Nous avons supposé en effet que consacrer du temps à faire de l'étude de la langue aurait un effet positif sur les résultats des élèves dans l'apprentissage du lire-écrire. Consacrer également du temps réparti et précoce à faire de l'étude de la langue versus massé et tardif aurait un effet positif sur les résultats des élèves dans l'apprentissage du lire-écrire. Mais sur un autre plan aussi, dans une perspective terminologique, nous avons posé des hypothèses liées aux termes grammaticaux, aux métatermes qui sont utilisés en classe par les enseignants. Et nous avons présupposé que utiliser des métatermes écrits aurait un effet positif sur les résultats des élèves dans l'apprentissage du lire-écrire. Même si nous ne traitons pas aujourd'hui les questions du métalangage parce qu'elles nécessitent avant tout une approche qualitative et une prise en compte du discours oral des enseignants et des élèves où foisonnent ces métatermes, le pointage dans le cahier des élèves et sur les affichages des classes nous a fourni 2 informations intéressantes à signaler. La première concerne les mots figurant dans la majorité des classes et de ce point de vue, les grands gagnants sont phrases et mots-outils, des termes relatifs à la syntaxe. La seconde se rapporte à l'évolution sur les 3 semaines du nombre d'emplois de certains de ces métatermes et il apparaît une montée en puissance des termes grammaticaux que sont nom, pluriel, singulier, féminin, masculin et verbe, donc des termes relatifs à la morphosyntaxe. Passons à présent au premier résultat concernant le budget temps consacré aux tâches de français et plus particulièrement à celles liées à l'étude de la langue et à notre première question qui, je vous le rappelle, était « Fait-on de l'étude de la langue au CP ?» Alors, il n'y a plus trop de suspense, vous l'avez vu sur les tableaux qui ont été présentés ce matin. Eh bien oui, il y a bien de l'étude de la langue au CP, mais le temps qui lui est consacré est relativement faible. Ce tableau vous montre, en effet, que la part des tâches d'étude de la langue reste minoritaire par rapport aux autres tâches de français. On note cependant une légère évolution, comme vous pouvez le constater. Cette évolution se passe sur l'année. L'étude de la langue représente en effet en novembre 31 minutes hebdomadaires, c'est-à-dire 7% du temps du français, Elle passe ensuite en mars à environ 40 minutes hebdomadaires, soit environ 9% du temps du français, et enfin en mai à environ 43 minutes hebdomadaires. Ce qu'on peut regarder également dans l'évolution justement de ce temps consacré à l'étude de la langue, c'est que la semaine 47, bâton bleu, semaine de novembre, se démarque des semaines suivantes, de mars et de mai, comme s'il y avait là un espèce de palier invisible entre les deux, et c'est le fameux janvier-février où en général les élèves démarrent la lecture. On peut faire d'autres remarques également qui nous paraissent importantes. Deux ensembles de tâches diminuent en cours d'année scolaire. Et il s'agit de l'étude du code et de la lecture. Cela vous a été dit également ce matin. En revanche, deux ensembles de tâches voient leur poids augmenter durant l'année scolaire. Il s'agit de l'étude de la langue et de la compréhension, ce qui vous a été également montré ce matin. Nous posons l'hypothèse également que l'ensemble du temps consacré au français restant stable, il est possible d'envisager que la diminution de la part consacrée à l'étude du code est en partie compensée par l'augmentation de la part consacrée à l'étude de la langue et, bien entendu, à l'étude de la compréhension. Cela a été également dit.
Alors, au niveau des enquêteurs, pour pouvoir relever quelles tâches nous voulions qu'ils remarque, nous avons défini trois tâches. En fait, on a défini très peu de tâches. Une qu'on va appeler EL1, qui est le lexique, une qui est liée à la syntaxe et une dernière liée à la morphologie. En gros, le lexique, c'était vraiment sur le sens, la construction des mots. Toute tâche où des enseignants expliquaient le sens d'un mot pouvait rentrer dans cette catégorie-là. Pour les questions de syntaxe, c'est avant tout l'organisation des mots dans la phrase et les phrases dans le texte, mais aussi la question de la distinction entre des phrases et des lignes, par exemple, mais aussi les questions de ponctuation rentraient dans cette deuxième catégorie. Et enfin, la troisième type de tâche, c'était liée à la morphologie, où là, on trouve plutôt de l'orthographe des mots, la chaîne des accords et les désinences verbales, par exemple. On va revenir sur la présentation de l'évolution semaine par semaine des tâches d'études de la langue. Donc on retrouve un tableau où sur votre droite, on a le temps cumulé d'études de la langue. Ce qui nous a intéressé, c'est de regarder, même si on est sur des temps qui commencent à diminuer, parce que là on est obligé de partager entre trois types de tâches, de voir l'évolution suivant les trois semaines d'observation du lexique, de la syntaxe et de la morphologie. Et en distinguant les trois types de tâches, on se rend compte que pour le lexique, il y a une genre de montée assez régulière du temps consacré à faire du lexique. La syntaxe, elle, qui a commencé assez fort, de manière assez forte en novembre, a tendance à baisser. Et ce qui nous a interpellé, c'est plutôt les tâches de morphologie. On reste sur des temps assez courts. On est sur toutes les classes. On est sur une moyenne de 131 classes. On passe de 3 minutes en novembre à 13 minutes en mai. Et on retrouve d'une manière un peu plus forte à ce moment-là ce que Corinne disait, c'est-à-dire une genre de montée en puissance, comme si l'enseignement de la morphologie se mettait en place au moment où l'enseignant de CP pouvait considérer que les élèves avaient réglé les problèmes de code. En tout cas, c'est notre hypothèse. Voilà les tendances que nous remarquons. C'est toujours à moi. Ce qu'on vous a montré, c'est les 131 classes ensemble. Donc là, on repart sur des durées hebdomadaires où les trois semaines sont confondues, mais on regarde les différences entre les classes. Donc toujours les mêmes schémas que vous trouvez, et toujours, en fait, cette grande disparité. Et ça, c'est à première vue valable, et ça a l'air d'être le point commun sur toutes les descriptions que l'on fait en fonction de nos entrées, par bloc. Il y a une très grande diversité le temps consacré à notre bloc, à nous, études de la langue. On a l'impression que certains enseignants de CP pensent, dans le premier décile, 7 minutes, en moyenne sur les 3 semaines, à faire de l'étude de la langue. Donc certains enseignants de CP peut-être pensent que ce n'est pas le lieu pour faire de l'étude de la langue, alors que 10 fois plus, le décile maximum, c'est quand même 83 minutes. Et quand on regarde en décomposant lexique, syntaxe, morphologie, on retrouve les mêmes choses. C'est-à-dire que, je vous l'ai mis en plus petit, mais c'est la même chose, on a bien une grande disparité, puisque ça va d'une moyenne de 0 à 42 minutes pour le lexique, etc., etc. On va se permettre de faire un premier point.
Et je reviens. Donc, à ce stade de notre présentation, nous allons faire un premier point de synthèse et nous en ferons systématiquement tout au long de l'exposé. Les premières analyses que nous venons de vous présenter nous ont permis de faire 5 constats. 1. Nous confirmons qu'il y a bien de l'étude de la langue menée au CP. 2. Nous constatons la présence dans les classes d'un métalangage écrit qui se trouve employé de plus en plus au fil de l'année. 3. Nous remarquons que le budget temps consacré à l'étude de la langue est le seul, avec celui dédié à la compréhension, à augmenter tout au long de l'année. 4. Nous relevons également que les 3 composantes, lexique, syntaxe, morphologie, ont des évolutions différentes sur les 3 semaines à l'étude. Et enfin, 5. Quelles que soient ces évolutions, il existe dans les classes une grande disparité des durées hebdomadaires tenues pour chaque composante linguistique.
Toujours dans ces premiers résultats, nous nous sommes permis de faire une exploration un peu particulière sur la morphologie. Alors pourquoi la morphologie ? Parce que déjà, dans son évolution dans l'année, on sent qu'il se passe quelque chose entre ce mois de novembre à 3 minutes et ce mois de mai à 13 minutes. Et le second élément qui nous a incité à aller voir plus précisément sur le L3, c'est que dans l'évaluation finale, nous avions la possibilité par la dictée, les lapins courent vite, d'avoir quelques éléments de retour sur l'impact que pourraient avoir les tâches de L3 sur, entre autres, des accords dans cette dictée. Alors, ce tableau, c'est la même chose que par décile, sauf que là, c'est classe par classe. Vous avez le temps moyen sur les 3 semaines consacré à faire de la morphologie classe par classe. On remarque quoi ? Que déjà, 60% des classes consacrent moins de 10 minutes par semaine, en moyenne sur les 3 classes, à faire de la morphologie. On constate que 5% des classes consacrent, c'est-à-dire 7 classes, plus de 30 minutes par semaine à faire de la morphologie. À nouveau, quelque chose d'assez fort dans la disparité des pratiques. Ce diagramme-là nous permet de dire, cette distribution-là nous permet de dire que la très grande majorité des classes, en fait, n'entrent pas réellement dans un enseignement grammatical tourné vers la morphologie. Et quand nous rentrerons en fin d'exposé sur le qualitatif, nous reviendrons sur cette information-là.
Alors, examinons l'exercice de la dictée qui nous a particulièrement intéressés et qui porte donc sur la phrase « les lapins courent vite » qui permet d'évaluer la gestion d'un pluriel nominal, le « s » de lapin, et d'un pluriel verbal, le « nt » de cours. Si vous examinez les codes de correction, vous verrez qu'il y a les codes 0 et 1 qui indiquent une absence ou une gestion erronée des marques du pluriel. Les codes 2 et 3 indiquent une gestion partielle des marques du pluriel et le code 4, une gestion maîtrisée de ces deux marques. Les codes de correction que vous voyez ici ne tiennent pas compte, de l'orthographe lexicale, bien entendu. Alors, ces résultats bruts nous informent sur les performances des 2507 élèves de notre corpus en fin d'année scolaire. Et il s'avère que les 3/4 des élèves, environ 75%, ne mettent aucune marque de pluriel. Ces données font apparaître que, quelles que soient les pratiques, en fin de CP, les élèves ne sont pas encore entrés dans la gestion grammaticale des marques du pluriel dans une phrase dictée par l'enseignant. Le temps consacré à faire de la morphologie ne semble pas avoir eu d'effet immédiat sur le plan orthographique. Alors, est-ce à dire que ce temps est sans effet, qu'il est inutile, qu'il n'est pas suffisant ou mal exploité ? nous ne pourrons aujourd'hui répondre qu'en partie à ces questions. Je reviens sur le carottage que nous venons de faire dans le champ morphologique, et il nous permet d'ajouter trois nouveaux constats aux précédents. 1. Comme pour les autres tâches d'étude de la langue, une grande disparité entre les classes existe en ce qui concerne le temps moyen consacré à la morphologie. 2. Les élèves de fin de CP, pour une très grande partie, 75% environ, je vous le rappelle, ne sont pas encore conscients des marques d'accord. Et enfin, 3. Le temps consacré à faire de la morphologie ne semble pas avoir un effet immédiat sur le plan orthographique. Dans l'ensemble, on peut donc dire qu'il y a de l'étude de la langue au CP, que le temps qui lui est consacré augmente au fil de l'année, que les durées hebdomadaires tenues pour chaque composante linguistique, y compris la morphologie, dont on voyait bien qu'il y avait quand même quelque chose au début de nos analyses, donc y compris pour la morphologie, s'avère très disparate d'une classe à l'autre. Le budget temps consacré à l'étude de la langue, qui est donc minoritaire par rapport à l'ensemble des enseignements du français et qui varie de surcroît selon les classes, peut-il donc avoir un effet sur les apprentissages de la lecture et de l'écriture ? Suspense.
C'est donc notre seconde vague de résultats, c'est le lien avec l'efficacité des classes. On est parti d'une décomposition en quartiles, c'est-à-dire que le travail que l'on a mené nous permet de définir à peu près un quart de notre corpus, 33 classes, considérées comme des classes qui ont un effet plutôt supérieur à ce qui était attendu, jusqu'à un quartile qu'on va appeler inférieur, qui lui propose une progression, mais un peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre. Voilà ce diagramme en quartiles. Sachant que nous avons en bleu le quartile supérieur, et c'est le temps qu'ils ont consacré à faire les différents blocs de tâches, et en bleu pâle le quartile inférieur. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour l'étude de la langue, il semble que les classes qui ont un effet ou une efficacité supérieure font plus d'études de la langue que le quartile inférieur. Alors là, à ce moment-là, parce que on est en train de vous amener dans notre exposé, dans le cheminement qu'on a eu nous-mêmes dans l'analyse des données, on s'est dit, est-ce que c'est la cause ? C'est-à-dire que les enseignants qui consacrent plus de temps à faire l'étude de la langue, eh bien, obtiennent de meilleurs résultats. Mais on s'est aussi posé la question de l'effet. Est-ce que les élèves qui apprennent plus vite à lire font que l'enseignant va se lancer plus vite à faire de l'étude de la langue ?
Alors, en fonction de ce premier lien, de ce premier effet temps-performance, nous avons décidé d'affiner nos hypothèses et de proposer de nouvelles requêtes au traitement statistique. Et on a en effet supposé que dans les pratiques enseignantes, toutes choses égales par ailleurs, les 5 variables suivantes seraient susceptibles d'avoir un impact sur les performances des élèves au test de juin. Je vous les rappelle, donc, passer du temps à l'étude de la langue, c'est-à-dire à l'étude du lexique, de la syntaxe et de la morphologie confondues, passer du temps à l'étude du vocabulaire, passer du temps à l'étude de la syntaxe, passer du temps à l'étude de la morphologie, et coupler l'étude de la morphologie à des tâches d'écriture sous dictée de phrases et de textes et d'encodage de phrases ou de textes.
Alors, en principe, si vous avez bien écouté l'ensemble des interventions, vous savez qu'il y a déjà des effets positifs. Entre autres, le groupe compréhension nous l'a dit clairement. Et en fait, le tableau qu'on a reçu de la part des statisticiens est le suivant. C'est-à-dire que quand vous avez un plus, nous sommes face à des effets significatifs et positifs, et ce n'est pas une tendance. Donc, malgré le fait que le temps d'étude de la langue soit peu élevé, le fait de passer du temps à faire de l'étude de la langue avec ses élèves a une influence positive sur le score global, le code, la compréhension et l'écriture. Il en est de même pour le lexique, il en est de même pour le couplage de l'écriture sous dictée, de l'encodage autonome et de l'étude de la morphologie. Au niveau du temps consacré à faire de la syntaxe, les statisticiens nous disent oui, c'est un effet positif, mais que que sur l'écriture. Et enfin, le temps consacré à faire de la morphologie a un effet positif sur le score global, mais aussi en compréhension et en écriture.
Faisons le point à nouveau avec cette nouvelle donne. À caractéristiques des élèves et à niveaux initiaux comparables et à caractéristiques des classes et des enseignants constantes, le temps passé donc à faire de l'étude de la langue, de l'étude du lexique et des tâches qui couplent morphologie et écriture exerce une influence sur quatre progressions considérées. Le score global, le code, la compréhension, la lecture. Le temps consacré à la morphologie exerce une influence sur les progressions globales, mais aussi en compréhension, et en écriture. Et enfin, le temps consacré à la syntaxe exerce une influence sur la progression en écriture seulement. Alors ces résultats, vous le pensez bien, nous ont conduit vers de nouvelles investigations et on s'est demandé en fait qu'est-ce qui est réellement fait dans les classes quand les codes 1, 2 et 3 sont repérés. Que découvrons-nous lorsque nous confrontons les tâches d'étude de la langue qui sont menées dans des classes appartenant au quartile supérieur et inférieur? Ou pour le dire autrement, les classes qui progressent le plus en lecture et en écriture sont celles qui consacrent du temps à l'étude de la langue. Mais du temps pour des tâches de quelle forme? Et ces formes varient-elles selon les quartiles supérieurs et inférieurs?
Ces questions nous amènent donc sur une seconde vague de résultats à tiroir. C'est-à-dire que là, on a fait de nouvelles explorations et on s'est concentré sur les deux quartiles supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire à ce moment-là, on n'est plus que sur 66 classes. Au niveau de la durée hebdomadaire moyenne en minutes par semaine, est-ce qu'il y a des différences? Oui, puisque le quartile supérieur fait plus d'études de la langue que le quartile inférieur. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on est sur la même évolution durant les trois semaines d'observation. Il y a, dans les deux cas, une augmentation du temps consacré à faire de l'étude de la langue. Plus dans le quartile supérieur, moins dans le quartile inférieur, mais on a le même schéma d'évolution. Quand on regarde tâche par tâche, si on regarde le lexique, on trouve exactement le même profil d'évolution. Pas au même niveau, c'est pas la même quantité, mais c'est une augmentation constante. Au niveau de la syntaxe, on va retrouver à peu près le même modèle, c'est-à-dire une forme de stabilisation des tâches d'étude de la langue, du temps consacré à faire des tâches d'étude de la langue qu'on a appelé numéro 2. Et au niveau de la morphologie, si tout va bien, on devrait trouver ce fameux palier, pas beaucoup en novembre et beaucoup en mars et en mai. Évidemment, c'est confirmé. La seule différence entre nos deux quartiles, c'est simplement le nombre de tâches. Alors, on a continué nos investigations. Ces investigations, on a essayé déjà de faire une catégorisation. On a regardé toutes les tâches d'études de la langue au mois de mai 2014 sur nos quartiles inférieurs et supérieurs. Et on a, un, isolé les séances où il y avait de l'étude de la langue. On a cumulé le temps que représentaient les tâches d'études de la langue au sein de chaque séance. Et on est capable, à ce moment-là, de dire, pour cette séance-là, les tâches d'études de la langue représentent tel pourcent ou tel pourcent. Ce qui nous donne, en fait, un tableau de cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on va avoir, en abscisse, les tâches, le cumulé des tâches d'études de la langue au sein de chaque séance, et en ordonnée, le pourcentage qu'elles représentent par rapport à la séance. La première information qu'il faut que l'on ait, c'est que, si on prend le quartile inférieur, 176 tâches d'études de la langue repérées dans 90 séances, moyenne 3 minutes 50. Si on prend le quartile supérieur, plus de tâches dans plus de séances, même moyenne. Donc ce n'est pas là que ça se joue. Qu'est-ce que ça donne? Voilà le quartile inférieur. En gros, la majorité des tâches d'études de la langue représentent un cumulé dans les séances qui est inférieur à 10 minutes et ne représente à peine que 20%, 30% et dans le moins de 40% de la séance. Et si on regarde le diagramme du quartile supérieur, on trouve plus de points, normal, il y a plus de tâches, mais à peu près la même distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il y a, on est au mois de juin, une quasi-absence de séance de plus de 35 minutes consacrée à l'étude de la langue. Pour le dire autrement, il n'y a pas de séance de grammaire en CP. Par contre, les deux tiers des tâches d'étude de la langue se trouvent ici, c'est-à-dire que quand on les cumule, elles font moins de 10 minutes, j'ai bien dit quand on les cumule, et elles représentent à peine 40% des séances. En gros, les tâches d'étude de la langue sont complètement implantées, diffusées, intégrées à des séances autres que des séances d'étude de la langue. J'ai pas fini. On a continué dans le qualitatif. Ça, c'est, on vous montre les derniers travaux qu'on a terminés la semaine dernière. On est 6 enseignants-chercheurs. On a un quartile supérieur à 33 classes, un quartile inférieur à 33 classes. Eh bien, on s'est dit, prenons chacun 10 classes et allons regarder chaque étude de la langue grâce aux vidéos et essayons de, en regardant cette tâche d'étude de la langue, qu'est-ce qui se passe dans la relation, dans la pédagogie, dans la classe. À l'aveugle. C'est-à-dire qu'en principe, chaque collègue ne savait pas trop si la classe qu'il avait à analyser était du quartile supérieur ou inférieur. On a trouvé 2 entrées pour essayer de catégoriser cette affaire. On s'est dit, et le tableau que je vous montre, on l'a construit au fur et à mesure des questions que l'on s'est posées. C'est-à-dire que ce tableau s'est construit après avoir commencé à regarder les vidéos et à essayer de catégoriser les tâches. On s'est déjà posé comme question sur un premier axe, quel est le rapport des savoirs sur la langue dans cette classe? Est-ce que c'est plutôt un rapport réflexif, où on sent une vigilance métalinguistique de la part de l'enseignant, ou est-ce que c'est plutôt une transmission non réflexive, avec peu de tissage et moins d'attention métalinguistique? L'autre axe, c'est le type de transmission. Est-ce que c'est une transmission qu'on a appelée transitive, c'est-à-dire une circulation de la parole favorisée par l'enseignant entre les élèves, ou plutôt intransitive, c'est-à-dire un échange de questions-réponses? Et chacun de nous a regardé une dizaine de classes sur les 3 semaines. Donc on a re-repéré, regardé la vidéo. On a réussi, sur les 66 classes possibles, à en catégoriser 61. Après, il y a des problèmes techniques, etc. Et l'idée, c'est de bien regarder les tâches les unes après les autres et à un moment ou à un autre, de décider dans quelle case je place cet enseignant. J'espère avoir été clair sur notre méthode de travail. Première information, très peu de classes dans cette case-là, c'est-à-dire dans une transmission peu réflexive, mais avec une circulation de la parole entre les élèves. On est sur quelque chose, on ne peut pas en dire grand-chose, c'est moins de 5 classes dans les 2 quartiles. Par contre, dans cette première intersection, on sent quand même une légère différence, puisqu'on trouve une dizaine de classes du quartile supérieur qui sont dans une transmission réflexive, avec une circulation de la parole entre les élèves, alors qu'on en trouve moins de 5 dans le quartile inférieur. On continue, là nouveau, la différence sera affinée avec les statisticiens. Pour l'instant, c'est un résultat brut qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve. Mais là aussi, on a l'impression qu'il y a plus de classes du quartile supérieur dans cette colonne de la transmission réflexive. Par contre, la dernière case, elle, nous a bien interpellés. C'est-à-dire que là, il y a une vraie différence. Les classes du quartile inférieur sont plutôt au moment où l'enseignant est face à des tâches d'étude de la langue. On ne regarde que ça. Elles sont plutôt dans une transmission non réflexive et dans une transmission intransitive, c'est-à-dire élève-maître. Voilà, donc ces deux intersections-là nous interrogent. On voit bien que l'ensemble des groupes est en train d'aller vers cette relation qualitative-quantitative qui nous pose des questions, bien sûr, de méthodologie, parce qu'il va falloir qu'on affine de manière un peu plus précise et qui aussi nous pose des questions de temps, parce que pour pouvoir faire ce travail-là, ça demande un temps assez important, mais ce corpus nous permet de le faire.
Bien. Je vais essayer de faire rapidement le point sur ce qu'apporte cette exploration à la fois quantitative et qualitative. On fait de l'étude de la langue de manière explicite et c'est ce que nous avons pu voir justement dans les vidéos. Également, les tâches d'étude de la langue sont avant tout des tâches qui sont implantées dans des séances autres que les séances de grammaire, vocabulaire ou d'orthographe. Donc, on peut dire que les enseignants des classes les plus performantes semblent proposer une transmission qui est plus sensible au savoir sur la langue et favoriser la circulation de la parole entre les élèves. Ce qui n'est pas sans rappeler l'engagement actif des élèves qui a été mentionné par le groupe Compréhension ce matin. Ces enseignants font preuve de vigilance métalinguistique et de réactivité sur ce qui peut être aussi dans des tâches de lecture, d'écriture, de compréhension des données lexicales, syntaxiques ou morphologiques. Ce dernier constat rappelle l'enjeu de la formation initiale et continue des enseignants sur ces questions précises. Nous avons à conclure rapidement en vous présentant les perspectives de cette recherche. Nous avons pris la mesure de l'impact significatif et positif du temps consacré à faire de l'étude de la langue au CP sur les apprentissages de la lecture et de l'écriture, mais il nous reste encore beaucoup de grains à moudre pour mieux saisir ce qui détermine précisément cette influence positive. Il nous faut en effet
poursuivre bien sûr l'analyse descriptive en croisant, là on est au cœur, il faut croiser les données quantitatives et qualitatives.
Il nous faut aussi constituer une typologie des classes pour l'étude de la langue, isoler des profils de classe, identifier les notions et les métathermes utilisés par les enseignants. Parce que nous avons constaté que dans le quartile supérieur, les métathermes qui étaient utilisés étaient bien souvent beaucoup plus précisément utilisés que dans les classes des quartiles inférieurs.
Il faut bien sûr qu'on mette en perspective aussi nos analyses avec des contextes d'enseignement. On n'a pas encore assez travaillé sur les élèves faibles, intermédiaires et forts. C'est un chantier que d'autres groupes ont fait et nous n'avons pas encore assez avancé là-dessus.
Oui. Et enfin, nous avons à travailler sur les résultats des évaluations de la cohorte CE1 et en particulier sur des items, cette fois-ci, spécifiquement attachés à l'étude de la langue. Nous vous remercions.